Probablement que je ne suis pas un véritable artiste, mais j'ai besoin qu'on le croie pour essayer de le devenir.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Ce soir.
Mais c'était la voix de Charles Aznavour dans le film de François Truffaut.
C'est ça.
Exactement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. C'est l'heure de votre Énervé du soir, le magazine de la bonne double soirée qui commence dès 18h en podcast et puis ça passe à l'antenne de 22h à minuit. Première partie, l'actualité et la musique live. Deuxième heure, les archives extraordinaires de France Inter. Et l'actu ce soir sur France Inter, eh bien c'est Charles, ses amours, ses amis... Pas d'emmerde. Sorti en salle aujourd'hui de son film un an jour pour jour après sa disparition. Oui, son film, Le regard de Charles. Un film composé des images qu'il a lui-même tournées dès 1948 quand Édith Piaf lui offre une caméra paillard. Charles Aznavour qui fait le tour du monde, qui veut en être le centre, l'Arménie, Johnny, les pattes de Lino Ventura, les femmes de sa vie, la consécration à Carnegie Hall. Charles regarde tout et tout le regard de Benoît Lagane.
Oui, et pour en parler, Marc Di Domenico qui réalise le film de Charles Aznavour. C'est bien mystérieux. Il va nous expliquer pourquoi. Donc Marc Di Domenico, avec lui Micha Aznavour, fils de Charles Aznavour, qui a été très présent aussi sur la production de ce film. Véronique Mortaigne, qui a écrit sur Gainsbourg, Jane Birkin, mais aussi Johnny, et qui va nous parler de Charles Aznavour
elle
ce
son
soir.
Aznavour sur le bout des doigts.
Et Fred Nefché, musicien, qui a vu le film et qui en sort bouleversé.
Il s'appelle Fred Nefché, en effet.
Fred Nefché.
Ce soir, en haut de l'affiche, en live, il y aura qui ?
Marine Guilbeault. Je crois qu'il n'a jamais repris une chanson d'Aznavour, mais comme lui, c'est un homme d'image, un homme de son, c'est Vincent Delerme. Il va être en live à la fin de l'émission.
Et puis, autre temps, autre parole, mais toujours de la musique. Voyage aux États-Unis dans le Énervé, la suite France Inter, plus de jazz cette semaine. Ce soir, l'émission Give Me Jazz nous entraîne dans le Mississippi sur les traces de Robert Johnson, un bluesman de légende à la vie particulièrement romanesque. Le Énervé, c'est parti.
France Inter. Le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Un an après la mort de Charles Aznavour, qui nous a quittés il y a tout juste un an, c'était le 1er octobre 2018, à l'âge de 94 ans, retour ce soir sur Le Grand Charles, plus de 1400 chansons, une soixantaine de films, à l'occasion de la sortie en salle aujourd'hui du Regard de Charles. Ce film retrace son parcours à travers des images qu'il a lui-même tourné et réalisé entre 48, la date à laquelle Édith Piaf lui offre sa première caméra, jusqu'en 1982. Le film est sorti en salle ce mercredi. Marc Di Domenico, vous qui êtes le réalisateur de ce film tourné en partie par la Charles Aznavour, ces images, elles viennent d'où et est-ce qu'il avait le projet d'en faire un véritable film, un véritable journal intime de sa vie?
Donc ces images, elles viennent de tout ce qu'il a pu filmer, donc de ça va de 47 jusqu'en 82. Parce qu'on s'est arrêté aux années pellicules. Aznavour, il a continué de filmer
continué,
après.
Parce que je me suis demandé pourquoi en 82.
Jusqu'en 2018, parce qu'à chaque fois, il avait des nouvelles caméras. Et on voulait rester dans une esthétique pellicule. Puis c'était les années, moi, qui m'intéressaient. Ça correspond aux années vinyles et ça correspond pour moi, dans ces chansons, ce qui m'a touché le plus, parce que c'est mon enfance, mon adolescence. Donc le matériel, il vient de tous ces films qu'il a pu faire au cours de tous ses voyages, de toutes ses vies amoureuses, etc.
C'était stocké où ?
C'était stocké dans sa maison de Mauriès en Provence. Et il se trouve qu'avec Micha, on se connaît depuis 1996. On avait fait ensemble l'album d'Henri Salvador, Chambre avec vue, à l'époque. Et ça, on ne s'est pas quitté depuis. Et donc je rendais visite à Charles fréquemment dans sa maison de Mauriès. Mais c'était plus des moments de vacances, de loisirs. Et on parlait cinéma beaucoup, parce que c'était un grand cinéphile. On parlait chansons aussi, parce que moi j'adore les chansons d'avant-guerre, les années folles, tout ça. Lise Gauthier, Bert Silva. Enfin bon,
on a voilà. Le même répertoire.
Donc on faisait des battles, ouais. Comme ça. Et en 2013, j'ai fait un film qui s'appelle Young Couples, qui était tourné en 35 mm noir et blanc avec une vieille caméra Aton, caméra de Godard entre autres. Il était passé sur le plateau, sur le tournage. Il m'avait dit, mais pourquoi tu t'emmerdes avec ça? Lui, il avait sa Canon numérique. Et moi, j'ai dit, j'avais envie de faire un film vraiment avec de la pellicule, avec les magasins, développé, etc. Donc, quand nous sommes revenus à Mauriès la fois d'après, il m'a dit, mais moi aussi, j'ai filmé en pellicule, voilà, c'est là. Et il y avait donc des bobines avec dessus une étiquette où il y avait un lieu, une date.
Carnegie Hall,
Hong Kong, la Napoule.
Oui, parce que c'est un véritable tour du monde. Michel Aznavour, vous l'avez vu filmé, j'imagine ?
Oui, bien sûr, je l'ai vu jeune, je le voyais souvent avec la caméra, mais c'est comme les photos, en fait, je l'ai vu très très souvent prendre des photos, mais comme tous les photographes, tous les vidéastes, qu'ils soient professionnels ou non professionnels, en fait, on voit jamais les photos. On se dit, mais on a fait toutes ces photos, on se plaignait quand on était jeune parce qu'on devait chaque fois poser, puis il aimait bien nous faire poser pour la photo en tout cas. On voyait jamais les photos. Et là, pour les images, ça a été vraiment une découverte même pour moi parce que j'avais vu certaines images, bien sûr, de nous plus jeunes, de voilà, de Galuis, de notre enfance, mais toutes les plus anciennes, ça a été vraiment très émouvant pour nous.
Vous mettez en scène?
Dans les photos, ils nous mettaient en scène, mais sur les tournages, non.
Sur les tournages,
mais
non.
Mais sur les photos, oui, ils aimaient bien nous mettre en scène.
Véronique Mortaigne, vous saviez qu'il avait ce talent de réalisateur? En tout cas, que l'image le passionnait au point même de tourner véritablement toute sa vie?
Il le disait, hein. Moi, je me souviens d'être allée justement dans sa maison de Mouriès, et il m'a dit, mais moi j'adore la caméra, prendre la caméra et tout, et pourriez-vous, vous n'en faites pas, etc. Enfin, il aimait bien ça, mais je soupçonnais pas du tout qu'il ait de telles archives. Quand j'ai su qu'il y avait ce film, je l'ai pris avec un peu de précaution, si vous voulez, parce que je me suis dit, bon, ça y est, un an, ils vont nous refaire le coup de l'anniversaire, ils vont sortir des inédits, des choses...
Oui, un disque posthume.
Moi, Aznavour, lui, Aznavour, enfin bref, lui et moi, enfin des choses un peu comme ça. Mais je connais le travail de Marc Di Domenico aussi, je sais qu'il est très précautionneux, on va dire, et très respectueux des artistes. Hein. Je connaissais son travail avec Henri Salvador, notamment, hein, qui a été quand même un miracle dans l'industrie même discographique française, hein, qui était quand même quelque chose d'absolument inattendu, et une renaissance pour Salvador. Et puis alors là, je commence à regarder, je tombe sur ces images de l'Afrique, et là je tombe des nues, quoi, parce que je me dis, c'est incroyable, il a commencé effectivement très très tôt, et ça n'est pas un film, ça ne va pas être un film à la gloire de Charles Aznavour, ou en tout cas en pointillé, et par derrière, hein, si on peut... en le suivant. Et de fait, alors moi j'étais complètement surprise, même si c'est un petit peu long au début, c'est beaucoup d'Afrique, etc. Il fait tous les pays africains, etc. Mais c'est merveilleux, en plus il y a un texte, d'ailleurs je voulais vous demander...
Qui a écrit le texte?
Est-ce que c'est lui qui est dit par
Romain Duris?
Pour le texte, on a travaillé... Moi j'ai fait retranscrire tous ces entretiens depuis les années 50 jusqu'en 2018. Et en plus de ça, j'ai relevé, il y a 5 bios en fait, il y a 5 bouquins. Ça démarre en 74 jusqu'en 2018, Retiens la vie. Et j'ai commencé à faire des associations d'idées, parce que j'ai eu la chance d'avoir les images il y a 2 ans et demi déjà. Donc Charles était très présent.
Ah oui, d'accord, vous avez commencé à travailler avec lui.
J'ai commencé à travailler, il était là. Et ce qui a été le déclic en fait, parce qu'on s'est pas dit, tiens, il y a ces images, on va faire un film, pas du tout. Il m'a dit, regarde. Et donc je les ai regardées. Et les premières images qui m'ont frappé, c'est les images de Hong Kong où on voit...
Quelle période, Hong Kong?
68, ouais. Voilà, entre 66...
Donc 20 ans après ses débuts
on voit un monsieur qui tire une charrette, ouais. Et lui, c'est un plan très serré, hein. Il filme les mollets, on sent qu'il filme l'effort. Et sur beaucoup d'images, il filmait l'effort. Et là, je lui ai dit, ça me fait penser, quand tu dis dans le temps des avants, que tu parles de ton père qui chargeait sa charrette de la rue de Rouault pour aller vendre aux puces, et qu'il arpentait la rue de Clichy, tout ça, et que lui était à l'arrière, voyait son père souffrir. Il dit dans le bouquin, cette image m'a frappé pour toujours. Et donc je lui dis, tiens, tu vois Charles, t'as filmé ça partout, je pense que ça veut ça a à voir avec ça. Et là, ça a été un déclic en fait.
Fred Neffcher,
je vous interromps parce que c'est exactement ça qui m'a frappé. C'est magnifique en tout point ce film. Et on découvre en fait ses obsessions de poète, le regard qu'il porte sur les choses, l'amour qu'il porte sur les gens, sur le quotidien. C'est vraiment bouleversant.
Hein. Pour moi, c'est une échappée de... parce que l'artiste Charles Aznavour, il avait une obsession. C'était d'être une grande vedette.
Quand
il avait conquis un pays, il fallait conquérir un autre pays, puis un autre pays.
Et on le voit même à l'image, c'est-à-dire que...
Il le dit à un moment donné,
il est derrière la caméra parce qu'il filme, mais il a besoin aussi d'être devant la caméra, donc il la donne à sa
femme. Mais toutes ces images en Afrique, à Hong Kong, etc., pour moi, justement, c'est la part de Charles, le petit garçon, le vagabond, qui s'échappe de cette obsession et qui marque autrement son siècle, en fait, tout ce temps qui passe.
C'est surtout Charles le migrant, je ne sais pas comment on peut dire.
Très important.
L'émigré.
C'est le fil rouge du film.
Charles Chaplin.
C'est effectivement, quand je reviens sur les premières images du film, qui sont sur l'Afrique, il a un regard d'une humanité incroyable. Il est voyageur, on entend aussi...
Il
est voyageur parce qu'il a été voyageur par obligation. Et par destin quasiment, et on voit qu'il a une empathie incroyable sur ces gens qui sont très différents de lui, il va vers Lubangui, etc. En plus, on est vraiment autant coloniaux, hein, donc, et il porte pas du tout un regard, la façon dont il filme n'est pas du tout un regard de supériorité, de etc. Non, il s'assimile vraiment, et quand on voit des gens qui sont sur une pirogue, qui sont en train de ramer, on a l'impression qu'ils passent le Bosphore, hein, franchement.
Qu'est-ce qu'il faisait en Afrique à ce moment-là? Il faisait
des concerts.
Mais c'est ça qu'il y a de beau, je trouve, parce qu'il aurait pu se contenter de faire sa date de concert, prendre son cachet, passer à une autre ville. Non, il prend ce temps-là d'aller à la découverte, d'aller chercher autre chose, en fait.
Et donc, parmi les images qu'il tourne, il tourne aussi des images de Charles Aznavour travaillant. Il y a notamment cette séquence tournée lors du film Un taxi pour Tobrouk. On écoute un extrait.
C'est Romain Duris qui prête sa voix à Charles Aznavour dans cet extrait.
Rendez-vous?
Non. Oui. Ce truc-là, là-bas, il est sur la carte ou pas?
Non. Oui, pas, non.
Oui, con. Et ce truc-là, il est sur la carte?
Ce jour-là, j'ai fixé ma caméra sur le capot de la voiture pour faire des images en couleur. De moi, à côté de lui.
Si c'est un frite, faut qu'ils nous prennent pour des frites. Ils ont autant de voitures anglaises que nous. Alors allez hop, tranquille, pas de vague, hein. Et tout dans le masque.
Il y en a là-dedans.
Un peu, figure-toi.
Mais quand j'ai vu cette séquence, moi je me suis immédiatement demandé, mais pourquoi Charles Aznavour n'a pas réalisé de film, finalement? Il aurait pu.
Ouais, parce qu'on lui a pas donné la possibilité.
Il devait réaliser Yiddish Connection. Pour finir, je crois les producteurs lui ont pas fait confiance ou
c'est Paul Bougenat un peu... qui va le faire.
Ouais, c'est Paul Bougenat.
Il a été déçu de ça?
Il a été déçu de la réalisation. Il a été déçu que au moment de la sortie, je crois qu'il y avait les premiers attentats de 86 à Paris. Donc il était surtout déçu de ça, mais. Après, il n'y pensait plus, en fin de compte. Parce qu'une fois que c'est... Lui, ce qu'il aimait, c'était faire des projets, avancer, finir. Une fois que c'était fini, c'était oublié. C'est un nouveau projet qui arrivait.
Elle vous a marqué, cette séquence où il se filme en train de tourner Taxi à Tobrouk aux côtés de Lino Ventura, Véronique Mortaigne?
Mais oui, parce que j'ai l'impression qu'il veut vraiment fixer dans le marbre. C'est important, le cinéma, pour lui. Mmh. Mais c'est vrai que, bon, comme un certain nombre d'artistes de variété ou de chansons, aussi grands soient-ils, ils sont parfois passés un peu à côté du cinéma, et Charles moins que les autres, hein, puisque il a quand même fait
une belle carrière,
je pense qu'il aurait voulu plus. Alors je sais pas, je me suis posé, pour moi c'est une énigme quand même, pourquoi est-ce qu'ils posent une caméra alors qu'ils sont en train d'être filmés? En plus, à un moment donné,
il est fan de son ami, il est hyper ému de filmer avec grand monsieur
qui est Lino Ventura.
En même temps, on voit pas tout, hein. On voit le front de Charles à un moment donné parce que la caméra est trop basse.
Le cadrage.
Elle bouge avec la Jeep,
c'est super.
C'est ça qui est tout au long de ce film quand même très séduisant, hein, on va dire, même quand il est dans le registre des confessions amoureuses ou par rapport à ses enfants. C'est quelque chose de... Là, il y a un évitement de la chose frontale, mais et en même temps, c'est toujours un choc devant. Donc ça, c'est très intéressant comme perspective.
Fred Neff, chez vous, qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans ce film?
Ce qui m'a marqué, c'est effectivement qu'il n'oublie jamais qu'il a été émigré, quoi. Il dit les grands hommes, il va rencontrer Sinatra, etc. Il dit, mais pour moi, c'est des grands, mais c'est surtout un immigré italien, un petit immigré italien comme moi. Il ramène tout ça à la question de la migration, quoi. Et d'ailleurs, quand il filme les gens qui font la queue, et ça m'a bouleversé, c'est un des éléments qui renvoie aussi à ma culture, parce que je suis moitié arménien, moitié espagnol, mais mes deux familles ont été dans la fuite pour sauver leur peau, c'est qu'il voit les gens faire la queue dans la neige. Et il dit, ça m'a fait remonter le souvenir du génocide arménien. Et moi, j'avais eu la même chose quand je suis allé en Afrique, à Kinshasa, en 2006, où j'ai vu les gens faire la queue pour essayer d'attraper quelque chose à manger. Ça, inévitablement, ça m'a renvoyé à ce souvenir de ce que m'ont raconté mes grands-parents et des photos, des quelques photos qu'on a du génocide où on voit les gens faire la queue, mais pour partir à la mort. Ça m'a, évidemment, c'est omniprésent dans le film, ce rapport qu'il a avec ses souvenirs. Et il note ça comme sur un carnet, comme pour mettre des images sur les obsessions qu'il a eues dans ses textes. Il a un regard de poète et à la fois de politique. Il a un regard politique sur les choses, sur le voyage. Comme vous disiez tout à l'heure, qu'il est allé, il s'échappe de l'hôtel pour aller filmer, et il ne filme jamais avec un regard condescendant, mais toujours avec. Il n'oublie jamais l'enfant qu'il a été à Montmartre et qui était porteur de tous ses rêves, et il filme avec tous ses rêves.
Alors quand on parle de Charles Aznavour, on a envie de l'écouter, comme dans le film, et se pose la question, mais quelle chanson va-t-on choisir? Nous, on s'est dit que dans l'immense répertoire de Charles Aznavour, puisqu'il était question de regard dans le titre du film, ben, je me voyais déjà, ça pouvait faire.
À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celle qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou. Mes traits ont vieilli bien sûr sous mon maquillage, mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge, mais j'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore. Rien que sous mes pieds, de sentir la scène, de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine, mais au fond de moi je suis sûr au moins que j'ai du talent. Mon complet bleu, il y a 30 ans que je le porte, et mes chansons ne font rire que moi. Je cours le cachet, je fais du porte à porte, pour subsister je fais n'importe quoi. Je n'ai connu que des succès faciles, des trains de nuit et des filles à soldats, les minables cachets, les valises à porter, les petits meublés et les maigres repas. Je me voyais déjà en photographie, au bras d'une star, l'hiver dans la neige, l'été au soleil. Je me voyais déjà racontant ma vie, l'air désabusé à des débutants friands de conseils. J'ouvrais calmement les soirs de première, mis le télégramme de ce tout Paris qui nous fait si peur. Et mourant de trac devant ce parterre, entrer sur la scène sous les ovations et les projecteurs. J'ai tout essayé pourtant pour sortir du nombre. J'ai chanté l'amour, j'ai fait du comique et de la fantaisie. Si tout a raté pour moi, si je suis dans l'ombre, ce n'est pas ma faute mais celle du public qui n'a rien compris. On ne m'a jamais accordé ma chance. D'autres ont réussi avec peu de voix et beaucoup d'argent. Moi j'étais trop pur ou trop en avance. Mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent.
Au début, on m'a dit, avec cette voix-là, tu ne pourras jamais réussir.
Le nouveau rendez-vous.
Et puis par la suite, on m'a dit, si tu n'avais pas eu cette voix-là, tu n'aurais jamais réussi. Alors je me pose la question maintenant, qu'est-ce qui m'a fait réussir?
Laurent Goumard, sur France Inter.
Un an après la mort de Charles Aznavour et au moment où sort en salle son presque film Le regard de Charles, on revient sur son parcours avec nos invités, son fils Micha Aznavour, le réalisateur Marc De Dominico, la journaliste Véronique Mortaigne et le chanteur Fred Nefché. À propos de chansons justement, Marc De Dominico, vous avez fait le choix, au départ j'ai pu lire que l'enjeu c'était de choisir des chansons peu connues, moins connues, pour autant on entend La Bohème, Hier encore ou alors même Formidable. Quel était l'enjeu par rapport aux chansons à mettre dans ce film?
Les chansons, elles devaient s'inscrire dans la narration. Ça devait être la continuité d'une narration. Ça devait raconter aussi quelque chose. Fallait pas. Souvent dans les documentaires, on voit quelques images et puis paf, on colle un tube, quelques images, un tube. Et là, c'est en ce sens que ce film, il est singulier. C'est que c'est déjà, pour moi, c'est pas un documentaire. C'est une forme d'autofiction. Enfin, c'est difficile à déterminer. C'est un film bicéphale. Il y a deux inconscients là. Qui travaille dans ce film. Et donc, le choix des chansons, il s'est fait vraiment par la narration. Et certaines chansons que moi, j'ai du mal à entendre, parce que je les ai entendues 100 fois, comme La Bohème, je dis 100 fois, 1250 fois. Et, mais comme il y avait ces images de Montmartre, elle
bien
s'est
sûr,
imposée,
elle tombait,
en fait. Voilà, parce qu'au départ, j'avais mis Il te suffisait que je t'aime, je sais pas si vous connaissez. où il disait « Nous avions 20 ans, toi et moi, quand sous le même toit, nous vivions la misère ensemble ». C'est une chanson sublime. Mais après, en mettant la bohème, je me suis dit « C'est pas mal », parce que finalement, à la bohème, ça lui donne quand même encore une autre couleur. Et donc, c'était, je me suis dit, c'est quand même pas mal de montrer aussi la bohème avec ses images. Et finalement, cette chanson qu'on connaît par cœur, eh ben, on la redécouvre.
Et puis aussi, je pense, pour ajouter que c'était pas mal de mettre la bohème, parce qu'on comprend pourquoi il a une interprétation, pourquoi l'interprétation plaît autant, en fait, de mon père. Parce que c'est pas lui qui l'a créé au départ, c'était pour Monsieur Carnaval, c'était Guitari, qui était quand même aussi un grand chanteur. Mais pourquoi, en fait, c'est celle de mon père qui est restée? Parce que justement, en fin de compte, c'était du vécu. C'est ça qu'on comprend avec l'image et le film.
Alors, parmi les chansons d'Aznavour dans le film, il y a cette chanson qui avait été interdite à l'époque.
En levant les yeux vers le ciel de France, je n'y vois plus passer que des oiseaux blessés qui ne comprennent rien, pas même leur souffrance, à travers ces enfers qu'ils ont dû traverser.
Véronique Mortaigne, vous connaissiez cette chanson et l'histoire de cette chanson ?
Non.
L'amour et la guerre, c'est Bernard Dimet.
C'est Bernard Dimet, oui.
L'amour et la guerre.
J'avoue, j'ai des lacunes. En terre d'Aznavour, il va faire l'abécédaire.
C'est Fred Neffché, vous connaissiez ?
En fait, je l'ai découvert dans le...
Dans le film aussi.
Dans le film, ouais, et l'histoire de ce...
Une des révélations du film, ouais. L'histoire donc de cette chanson,
déjà cette chanson, alors elle est particulière chez Aznavour, c'est qu'il y a quatre parties. Mais quatre parties de 3 minutes.
Ah oui,
parce que c'est un long texte de Bernard Dimet. Moi, j'ai pioché, je crois que j'ai mélangé troisième et deuxième partie pour aller avec les images. Et donc, c'est une chanson qui a été censurée pendant la guerre d'Algérie. Et pour moi, c'était important de la mettre, parce que Aznavour, on dit oui, il a été censuré pour ses chansons entre guillemets cochonnes, après l'amour. Mais il a été
érotique.
Érotique, oui, c'est ça. Oui.
Pornographique, on disait.
À l'époque, il disait pornographique. Et là, je trouvais vraiment intéressant de montrer cette part, justement, de il était antimilitariste, mais de montrer aussi que certaines chansons ont été censurées pour des raisons d'engagement politique.
Il a été beaucoup censuré, Véronique Mortaigne?
Non, pas plus que j'ai pas l'impression.
Il a été quand même, il a eu quand même Après l'amour.
Oui.
Viens donne tes 16 ans. Il a quand même eu au moins une je pense 7 ou 8 chansons.
Viens donne tes 16 ans. C'est vrai, même aujourd'hui encore.
Mais aujourd'hui, ça passe encore.
Rien ne passe. Ouais. Emmenez-moi. Je suis pas sûr que ça passe aujourd'hui dans le fond.
Oui. La misère plus
la misère plus belle.
Oui, ça passe.
Mais la censure, et d'ailleurs jusqu'à assez tard, on disait que Madame de Gaulle, vous savez, était très Yvonne de Gaulle était très attentive à tout ce qui se disait dans les chansons de variété et opérait son droit de censure sur le RTF très très souvent. Hein. Donc oui, il a été censuré, mais enfin d'autres ont été censurés
à la même époque.
Et si pour parler de Gaulle, juste un mot pour Paris, justement les images qu'on a de Paris filmées par Charles, c'est encore le Paris noir. C'est avant Malraux, avant que Malraux décide de faire blanchir Paris et nettoie Paris après 58. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans ces images, c'est que c'est vraiment un Paris qu'on a totalement oublié. Quoi. C'est vraiment une époque révolue.
Il a été censuré pendant la guerre d'Algérie avec cette chanson. Comment politiquement il était perçu à ce moment-là? Et puis ensuite, comment il a évolué d'ailleurs politiquement aussi?
Mais moi, je pense que politiquement...
Michel Aznavour.
Je pense que jeune, il ne s'est pas trop mêlé de politique. Il n'était pas politique parce qu'en fait, il ne voulait pas se positionner. Il avait sa façon de penser, ses idées à lui. Mais... Il se positionnait pas. C'était pas Jean Ferrat ou Marc Orgeret. C'est pas un chanteur politique.
Alors que dans la communauté arménienne, il y avait beaucoup de communistes.
Oui, non, mais il disait, je viens d'une famille de gauche et je suis de gauche, mais pourtant, il avait pas l'air de gauche quand on le voyait. Mais je pense que profondément, au fond de lui, oui, il y avait ça.
Mais antimilitariste, toujours, il est resté long, oui. Toujours jusqu'à la fin.
Oui, pourtant, je me suis fait engueuler quand je me suis fait renvoyer de l'armée, comme quoi.
On a voulu être antimilitariste parce qu'il était un bon père et qu'il voulait votre bonheur. Voilà. Fred Neffché, à quelle occasion vous avez découvert le répertoire de Charles Aznavour et qu'est-ce qui vous a marqué dans l'histoire de ces chansons?
Étant d'origine arménienne, voilà, ça a toujours été, comment dire, un grand monument assez délicat à vivre avec, parce qu'il y avait le grand, bon, moi, je, étant donné que je voulais devenir chanteur, donc il y avait un peu ce monument où tout le monde, un peu, c'était la possession de tout le monde, Aznavour. Donc, je me suis dit, bon, il possède, enfin, il est déjà à tout le monde, je vais peut-être, je l'ai découvert finalement assez tard. Et je l'ai surtout découvert finalement quand je l'ai rencontré une fois à l'Olympia. C'était une rencontre organisée pour des jeunes auteurs. On était 5 invités, donc on est, comme ça, il était venu un petit peu pour nous parler et il nous avait donné quelques clés. Comment dire, il avait parlé de la du concret, quoi. Qu'est-ce que c'est que le travail, comment
quelle
on travaille. Ben, je peux en dévoiler une peut-être. C'est il disait d'abord, je vais voir tous les concerts, tous les gens, je vais voir tous les artistes. Voilà. Je vais voir tout le monde parce que mon regard reste toujours jeune comme ça. Mon regard, il est toujours devant. Et d'ailleurs, il le dit dans le film. Et peut-être un brin du second, mais il y en a eu trois en réalité. Je vais garder le troisième pour moi, mais je vais donner le second. Il disait
on a les
quand on va
parler,
voir,
vous savez,
quand on va voir,
on aura droit au
j'espère, j'espère, j'espère. Ouais. Quand on va voir des artistes, il a dit, j'ai remarqué que chaque artiste avait sa façon de rentrer sur scène et sa façon de sortir. Il dit parce que le métier au fond, on sait tous le faire. Entre le début et la fin, on se débrouille. Mais le début et la fin, c'est unique. Alors il disait, j'ai été voir Guy Marchand et Guy Marchand, il rentrait de cette façon-là, en soulevant le chapeau. Il y avait Yves Montand qui montait sur scène et qui avait toujours l'impression de parler à quelqu'un dans les loges parce qu'il disait, comme ça le public croit que je suis en train de me disputer avec Simone. Donc il nous a détaillé comme ça les entrées de tous les chanteurs.
Et lui,
il disait, vous devez avoir la vôtre. Lui, il disait, je rentrais sur scène et j'allais saluer les gens et ensuite je me mettais à chanter. Mais je ne sais pas s'il a fait ça toute sa carrière.
Mais ça,
et
ça, il le tient de...
C'était ça,
oui.
Parce que...
Micha, ouais.
Vraiment, c'est comme si, vous savez, il nous avait donné un peu le feu, quoi, quelque chose en disant,
ouais.
Vous êtes la jeune génération, vous avez encore tant de choses à écrire, tant de choses à faire, voilà un trésor. Enfin, il ne disait pas ça comme ça, mais il était plein de générosité, en tout cas.
Et lui, ouais. Il a eu ses maîtres aussi, si je peux me permettre.
Marie Dominico,
parce que l'entrée en scène et la sortie de scène, ça, c'était Chevalier. Qui a transmis ça à Charles
Maurice, Chevalier.
Maurice, oui, bien
pour
sûr.
Pour les plus jeunes de nos auditeurs.
Voilà, pour les plus jeunes.
Et moi qui connaissais Discotti.
Et Charles, dès qu'il avait trois ronds, gamin, il allait voir Chevalier au Casino de Paris. Ah, et il y est allé 100 fois. Et il y a des gestes très précis, Charles. D'ailleurs, je lui ai dit un jour, mais ça, attends, c'est un geste de Chevalier. Il dit, bah ouais, il faut...
Michel Aznavour.
Oui, c'est vrai, il avait étudié tout. Et puis quand il a été régisseur pour Edith...
Piaf.
Tous les soirs, oui, pour Edith Piaf, en fait, il a regardé travailler, il a observé, il a beaucoup observé.
En
film, parce que il a beaucoup observé sans caméra, c'était logique au fond qu'il filme.
Mais c'est exactement ça, oui. Je me suis dit la même chose en sortant de film, c'est qu'il avait ce regard et c'est fantastique cette obsession de regarder. Et surtout, c'est un cadeau qu'il nous fait avec ces images aussi. Un cadeau qui est encore porté vers devant, quoi.
Dans le musical, le musical à l'ancienne, on va dire, à l'ancienne, il y avait effectivement l'entrée, la sortie, les séquences de répertoire, le répertoire qu'on choisissait de manière extrêmement soigneuse. Et puis alors, chez Aznavour, il y avait quand même cette idée du travail. Moi, je me souviens qu'il me disait, mais comprenez, pour vendre à l'étranger, eh bien voilà, il faut sortir de son pays avec la gloire, on monte son passeport, on dit allez-y monsieur Aznavour, etc. On arrive aux États-Unis et là on tombe sur un quelqu'un de très suspicieux qui dit quoi, Aznavourian, etc. Vous me faites faire quoi, personne ne vous connaît, on n'a pas de taxi, personne n'attend et il faut partir à la conquête du Carnegie Hall. Et c'est que comme ça qu'on peut y arriver avec du travail et énormément de volonté. Et ça, il était formidable.
Mais au-delà de la volonté, il y a aussi l'idée, il aurait pu justement garder son statut de vedette en France où il était très bien. Parce qu'il disait souvent, mes amis vedettes sont paresseux. Moi, je suis allé aux États-Unis.
Voilà.
Et en fait, c'est lui, l'argent qu'il a gagné en France, il a tout misé aux États-Unis. C'est comme ça qu'il arrive à faire le Carnegie.
Oui, c'est pour ça que ça me fait
parce que personne voulait l'inviter.
Alors justement, on écoute un extrait de ce film, notamment lors du concert à Carnegie Hall.
Combien on est sur le compte, il dit.
Charles Aznavour a réussi son opération New York. Il y a moins de 48 heures, à Carnegie Hall, Charles Aznavour a donné un nouveau sens au mot formidable. Ce mot qui sert de titre à une de ses meilleures chansons. Formidable, c'est d'ailleurs un très bon titre, surtout lorsqu'il s'inscrit en lettres énormes sur la pochette d'un disque. Un disque que 150 Parisiens portaient tous très fièrement en descendant tout à l'heure à Orly de l'avion spécial qui les ramenait de New York. Comme pour un concert d'Arthur Rubinstein au Palais de Chaillot, il y avait même des spectateurs jusque sur la scène, tout près de Charles Aznavour. Alors, c'est d'abord pour eux, pour ceux qu'il connaissait déjà très bien, qu'il a commencé de chanter.
Formidable, after of course. But how can you see me? Si minable. Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nom.
J'adore. Meryl Morten,
c'est oh bah pas c'est, formidable, ouais. C'est formidable.
Bah, bah oui,
formidable.
C'est même le titre de la
c'est
chanson.
C'est formidable, mais non, mais il y a pas d'autre mot.
Ouais. Je peux dire un mot pour sur le Carnegie Hall, le premier Carnegie Hall. Ouais. C'était plein et en fait c'était le tiré sur le pianiste qui avait énormément marché à New York et la plupart du public pensait,
le film de Truffaut, justement,
pensait venir voir un pianiste en fait.
Un pianiste.
Pensait que Charles jouait du piano. Et il y avait tous les musiciens de jazz qui étaient venus le voir et qui lui demandaient mais quand est-ce que When are you going to play piano? Il disait non, singing.
Oh, le beau malentendu.
Vous, vous l'avez vu en concert, Véronique Morten?
Bah oui, je l'ai vu plusieurs fois. Je l'ai vu
quand il
ôte
ses chaussures
souvent.
Et qu'il tient.
Non, mais il est formidable. J'en recommence. Mais je ne peux pas m'empêcher de le répéter parce que, en fait, il a un sens de l'économie de la dramaturgie qui est extraordinaire. Et j'en parle au présent, hein. J'en parle au présent parce que c'est gravé dans le marbre et c'est gravé en moi. Parce qu'il a, il avait une gestuelle extraordinaire, puisqu'il arrivait à exprimer des choses extrêmement complexes, comme ils disent, par exemple, quand il commençait, ou quand il dansait de manière extrêmement sensuelle, il était tout seul, on ne voyait que lui, il y avait un geste avec les mains, avec les épaules, et ça suffisait pour exprimer des continents de sentiments, d'amour, et de choses comme ça. Il était extraordinaire du point de vue de la comédie, si vous voulez.
Oui, parce que vous écrivez qu'à la fin de son tour de chant, il ôtait ses chaussures qu'il tenait dans ses mains, recevant l'ovation des premiers fans, les bras en croix. C'est ce que vous aviez écrit pour l'article à un moment
de sa disparition. Mais ça, c'était sur la chanson Le chemin de l'éternité.
Oui.
Où il enlevait ses chaussures et il partait. Voilà. Magnifique chanson. Oui. Aux auditeurs qui la connaîtraient.
Bon, il l'a fait une fois, il ne l'a pas fait non plus.
Ah, Michel, c'est vous, le gardien du temple.
Moi, je n'ai jamais vu faire ça, mais c'est vrai que à la fin du concert de l'Alhambra. Mais c'était en 1960, donc on est peu à l'avoir vu. Enfin, moi, j'étais même pas né.
Vous n'étiez même pas né, oui.
Ouais.
Mais il l'a fait en Russie aussi, devant Khrouchtchev. Il m'avait raconté l'histoire.
Oui. Ouais. I like to see everything in neon. Drink lime green, stay up till dawn. Maybe the way that I'm living is killing. A song, do shit to keep me turned on. But one day I woke up like maybe I'll do it differently. So I moved to California, but it's just a state of mind. It turns out everywhere you go, you take yourself. That's not a lie. Wish that you would hold me or just say that you were mine. It's killing me slowly. Dream a little dream of me. Thank you.
Fuck it, I love you, une drôle de déclaration d'amour signée Lana Del Rey, moi je t'aurais censuré ça. Il sera en concert, elle sera en concert à l'Accor Arena de Paris le 23 février 2020, elle était dans Voici de la semaine dernière, la programmation Fuck de Jean-Baptiste Audibert.
France Inter.
Bonsoir Charlie, ça va bien ?
Le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Qu'est-ce que tu fous ici ? Ben moi, je vais te dire tout quoi je t'avais.
Ça va pas du tout.
Ben, t'as bonne mine derrière cette casserole. Alors, tu devrais être devant un piano de concert, devant une salle bourrée à bloc, avec des spectateurs à genoux. Alors, moi, je te demande, qu'est-ce que tu fous ici?
Je peux pas être à deux endroits à la fois.
Oh, laisse-moi rigoler.
Tiré sur le pianiste de Truffaut a très bien marché à New York. Et les gens sont venus voir l'acteur du film. C'est un triomphe. Pour certains, c'est incroyable que moi, le petit franco-arménien, je sois devenu l'ami des géants. De Frank Sinatra, de Nina Simone, Ray Charles ou Barbara Streisand. C'est vrai que c'est extraordinaire, mais finalement, qui sont-ils ces géants? Un petit italo-américain? Une petite afro-américaine? Une petite juive de New York? On est tous des petits quelque chose. Tous ont combattu les préjugés sur leur physique, leur couleur de peau. Tous ont fait de leurs défauts des singularités. Tous ont réussi. J'ai réussi et j'en suis pas peu fier.
Tomorrow is my turn. No more doubts, no more fears, tomorrow is my turn.
Charles Aznavour en haut de l'affiche avec la voix de Romain Duris dans le film Le Regard de Charles. On en parle ce soir dans le NRV, un an après sa disparition. On en parle avec nos invités Macha Aznavour, Marc Di Domenico, Fred Nefché et Véronique Mortaigne. Cette appréhension du succès des autres par le fait qu'ils étaient tous des petits quelque chose, c'est quelque chose qui véritablement a marqué tout le parcours d'Aznavour, selon vous, Véronique Mortaigne?
Oui, mais en plus c'est une théorie qui se vérifie quand même. Hein. C'est-à-dire que pour être artiste et arriver à ce niveau, il faut d'abord... Je pense avoir un sacré décalage avec la société ambiante. Ensuite, avoir effectivement une sorte de vision dans le futur ou sur les à-côté qui vient de toutes les difficultés qu'on a eues et où on a été obligé, quelque part, de regarder précisément à droite, à gauche et tout, pas se faire tuer. Hein, donc il y a quelque chose comme ça. La volonté de Nina Simone, par exemple, de devenir pianiste classique, elle n'y arrive pas. Elle devient cette vedette mondiale aujourd'hui, avec toutes les difficultés qu'elle a eues avant. Alors, de fait, c'est comparable à Charles Aznavour, qui doit passer des obstacles sur son physique, sur sa voix.
Sur sa voix aussi, oui.
On le surnommait Aznavoice, parce qu'on disait qu'il n'avait pas de voix, alors qu'il avait une voix très typée et très forte, hein, en plus. Donc, mais il a travaillé. Donc tout ça, c'est une course d'obstacles et qui est vécue dans une ultra-sensibilité, comme on le voit d'ailleurs sur les images qui nous sont proposées aujourd'hui.
Mais Véronique parle de Nina Simone, si je peux me permettre.
Marc Di Domenico.
Il y a une version de Tomorrow is My Turn, oui, de Nina Simone, extraordinaire. Oui. Il y a la version de l'album qui est assez rythmée, mais il y a un live en Hollande où elle est posée, elle nous regarde, elle chante cette chanson, c'est exceptionnel.
Michel Aznavour, il le disait à vous, qui se sentait proche de tous ces artistes-là. Il le disait ou il le...
Non, mais il se vantait dans la famille, il ne parlait pas trop. Il n'était pas un personnage public quand même à la maison, sinon ça aurait été invivable pour lui. C'était là en train de dire oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça.
Non, mais il aurait pu se sentir proche dans la façon de penser la musique.
C'était assez difficile de parler avec mon père parce que ce n'était pas vraiment quelqu'un de la communication en fait. Il était très très pudique, donc il nous a montré son amour, il était beaucoup là pour nous, mais voilà, j'ai pas eu de discussion sur l'art, sur la musique, sur tout ça. Sans doute j'aurais souhaité, mais c'était pas le personnage qu'il était en fait. C'était quelqu'un de très très pudique, de presque un peu sauvage en fait. Voilà, son travail, c'était son petit refuge, en fait. Et même quand les gens disaient, ah oui, il arrivait à un endroit et au bout d'un moment, il avait envie de retourner travailler, retourner dans son petit cocon ou de sécurité, parce qu'au fond, c'était quelqu'un de sans doute plus sensible qu'il n'en paraissait.
Ce qui est intéressant dans le film, c'est le fait qu'il est derrière la caméra, puisque c'est lui qui tourne les images, mais qu'à un moment donné, il n'en peut plus d'être derrière la caméra et qu'il va bien falloir qu'il soit au centre de l'écran. Donc, par exemple, il sort, on le voit sortir à un moment donné d'une salle, il y a Catherine Deneuve qui passe.
C'est le mariage de son attaché de presse de l'époque, qui était aussi l'attaché de presse.
On voit plein de vedettes, mais à ce moment-là, il faut que la caméra soit sur lui, donc il a passé la caméra.
Il veut être au centre.
Voilà, il veut être au centre de l'image.
C'est le selfie avant l'heure.
Et c'est pour ça qu'il va donner. Exactement, il va donner
la caméra, à un moment donné, à sa femme, Ulla, oui, pour être au centre de l'écran, Marc Di Domenico.
Je pense pas que c'est...
Là, c'est pas Ulla.
Non, non, pas cette fois-ci. Là, il y en a plein.
Cette fois-là, ah, c'est oui, son manager ou son attaché de presse.
Voilà, non, mais il y a toujours quelqu'un pour le filmer.
Non, mais je pense que quand il a donné la caméra...
C'est ce que vous avez fait, pourtant, j'ai l'impression.
Quand il a donné, en fait, la caméra à ma mère, c'était pas du tout pour se retrouver lui au centre. C'était en fait... C'est un autre moment. C'est plus partager, en fait, l'amour des deux. Je suis d'accord sur le mariage de Richard Balducci. Bah, c'est aussi en même temps, on fait tous un peu ça. Donc on va à un mariage, on va filmer un petit peu, mais à un moment, on veut aussi être filmé avec nos copains, quoi. Et là, c'était quand même tous ses potes.
Fred Nefché, comment vous avez regardé justement les images intimes, les images de famille, la façon dont il met en scène d'une certaine façon aussi son entourage, notamment sa femme?
Ouais. Je sais pas, j'arrive pas à penser à une question d'ego quand je le vois filmer. Il est vraiment dans une certaine forme d'humilité. En même temps, il le fait pour lui, donc il a envie effectivement d'être au milieu de tout le monde, de dire peut-être aussi il devait se dire à quoi je ressemblais à ce moment-là, il pour avoir peut-être le regardé un jour, mais en fait il a dit qu'il ne les avait jamais regardés. Je ne sais pas, il a voulu témoigner aussi de lui à ce moment-là.
Moi ce que j'aime dans le film, c'est qu'on n'a pas occulté les années bling bling, on dit bling bling aujourd'hui.
Ouais, quand il dit je gagne de l'argent, j'en suis fier, j'ai ma Rolls, j'ai ma piscine,
de toute façon,
j'ai mes
amis. C'est un cabotin, ça c'est sûr.
Ouais. Hein. Ouais, et quand il dit ça,
on pas tout le monde en même temps. Ouais,
il a eu ce moment-là où j'assume, j'ai réussi et j'en suis fier. Et puis après, il a compris et voilà, il a laissé tomber tout ça.
Mais c'est beau cette façon dont il le dit. Moi, je trouve c'est, je vous rejoins vraiment. Il dit, il y a de la pudeur et il le dit de façon très très belle et ça donne beaucoup de perspectives, je trouve même. Que ce soit pour des gens qui ne sont pas du métier, comme ce soit pour d'autres qui sont du métier. Pour un chanteur, par exemple, ça donne énormément de perspectives. Ce marathon qu'il a fait pour réussir et tous les obstacles qu'il a sauté pour arriver jusque là, c'est vraiment magnifique.
On voit aussi le père à l'œuvre, notamment dans les images. On voit son fils Patrick, un de ses fils aujourd'hui disparu, qui dit qu'il aimait son père et que avant tout, il avait appris l'arménien pour pouvoir parler aussi avec son père. Qu'est-ce qu'il vous a transmis de cette langue, Michel Aznavour ?
Moi, j'ai fait 2 ans de collège arménien, mais contrairement à mon demi-frère, j'ai pas retenu un mot. Donc, j'ai fait 2 ans, mais bon, moi, c'est. Il nous a surtout transmis plus les traditions et la mémoire profonde en fait de l'Arménie. Après que je parle, moi quand j'ai appris l'arménien, c'était en 80-81, c'était un pays qui n'existe pas, c'était une langue morte. Donc puis j'étais jeune, j'avais 9-10 ans. À cet âge-là, on retient pas l'importance. Voilà quoi.
Non, mais je n'ai pas appris non plus l'arménien. Ma grand-mère parlait l'arménien, mais surtout parlait le turc puisqu'elle était de Constantinople. Et voilà, et j'ai le souvenir, moi, il me reste presque plutôt des gros mots en turc, puisqu'ils utilisaient les Arméniens utilisaient le turc pour dire essentiellement les gros mots. Et donc, il me reste plutôt ça. Non, je vous en prie.
Il y a 3 Arméniens.
Marc Di Domenico.
Il y a 3 Arméniens, en fait. Il y a l'Arménien qui est parlé là-bas, l'Arménien de la diaspora et l'Arménien littéraire, en fait. Donc, c'est compliqué. Hein. Je vois mieux parce qu'entre 2 Arméniens, je ne joue pas Arménien, hein. Mais bon, avec Charles, il y avait une expo très belle à l'Institut du monde arabe, les chrétiens d'Orient. Et donc, il y avait tout un passage sur l'Arménie. Et c'est là où j'ai découvert qu'il y avait 3 Arméniens et que 2 Arméniens qui se parlent entre eux n'utilisent pas forcément les mêmes mots.
Et dans le film, ah non, il y a un moment très émouvant. Dans le film, je trouve qu'il y a un moment qui est très émouvant, c'est quand on voit qu'il retrouve sa grand-mère. C'est la première fois qu'il va en Arménie.
En 1963.
Moi, ça m'a bouleversé parce qu'il... Et le texte donc, que dit Romain Duris, il dit je connaissais ses cheveux, je connaissais cette odeur, je connaissais son châle, je connaissais... Et là, on est à la quintessence. Et là, ça se passe de la langue, on rentre dans vraiment quelque chose de la transmission.
Véronique Mortagne.
Ouais, c'est-à-dire que il n'a pas affirmé tout de suite publiquement hein, ses racines arméniennes. Il a mis un petit peu de temps. Hein. Mmh. Au départ, c'était pas ça. Il était chanteur français, crooner. Il prenait ses exemples aux États-Unis. Et par contre, dans sa maison du Midi, il avait des instruments. Il avait il avait du santour,
un
tar, etc. Donc qui était profondeur assez évidente, hein, mais et l'Arménie publique est devenue est venu plus tard, si je ne me trompe. Et il avait cette pudeur, effectivement, même par rapport à sa vie privée. Il n'en parlait pas tellement. Hein. C'est-à-dire que, évidemment, il y avait des photos de lui, etc. Des photos de votre mère avec lui. Mais là, dans le film, on découvre sa première épouse, le drame qu'il a vécu avec votre demi-frère, Patrick, qui est mort d'overdose. Et je me demandais d'ailleurs si ça avait été évident de mettre ça dans un film comme celui-là.
Marc Di Domenico.
Ce qui était, à partir du moment où il l'a filmé, voilà, on pouvait, moi, je me permettais de l'utiliser, sous couvert, bien sûr, de la famille. Mais à partir du moment où il l'a filmé et qu'il me le montre, bon, bah, je considère que je peux le montrer. C'est pas
il y a eu des images interdites par la famille?
Aucune.
Non. Michel, vous avez tout laissé?
Oui. À part celle où je suis tout nu.
Mais vous avez quel âge?
2 ans.
Oh, ben ça va, la prescription sur une peau de bête, j'imagine. On va quitter Charles Aznavour pour retrouver un autre chanteur, et pas n'importe lequel. Tout de suite, on part en live avec Marion Guilbeault.
All right, let's have a little rumble at the Ritz tonight.
Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
C'est l'heure de mettre les casques, messieurs, dames, autour de...
De la table, pas chez vous, chaque fois elle nous fait le coup.
Autour du plateau, j'ai dit, arrêtez. Laurent, on est ravis de retrouver Vincent Delerme. Tous les 2-3 ans, ses chansons sont comme des repères dans notre paysage musical. Il nous interpelle sur les hasards heureux, les correspondances troublantes, car ses chansons nous lient les uns aux autres. Vincent Delerme insiste depuis 17 ans maintenant sur la force des souvenirs, les soubresauts des sentiments. Et il reprend contact cette année avec un film, c'est son premier, il s'intitule Je ne sais pas si c'est tout le monde. Alors ceux qui connaissent déjà ces photos, ces spectacles, savent déjà que Vincent Delerme est autant un homme de regard que de chanson. Et un nouvel album, Panorama, pour lequel il a confié chaque titre à un réalisateur ou réalisatrice différent. Alors on va retrouver plusieurs personnes un peu connues. Il y a Clément Ducol, il y a Voyou, il y a Dan Lévy, Herman Dune, Kerenan, encore Yael Naïm. Le résultat est splendide, étonnant, on aura l'occasion d'en reparler. Mais pour l'heure, comme on parle de ce film d'Aznavour, avant que vous ne jouiez un premier titre de cet album en piano-voix, je précise. Vincent Delerme, vous qui venez de réaliser votre premier film, je me demandais quel regard vous portiez sur le Charles Aznavour acteur.
Ah, je l'aime bien. Évidemment, c'est beaucoup lié à tirer sur le pianiste. Et je pense notamment à une scène où il marche dans la rue avec, comme ça, on entend sa voix off. Et il y a un truc très, très, très musical quand même, même au sein du film. Et non, il est vraiment, vraiment touchant parce que c'est ce que je cherchais Truffaut souvent. C'est un personnage, on ne comprend pas pourquoi. On va l'aimer, mais on l'aime. Et finalement, c'est un peu peut-être aussi le principe des fois d'un chanteur comme ça, surtout un chanteur de charme, finalement.
Vous l'avez croisé ?
Alors, en fait, je l'ai croisé une fois. Je l'ai même accompagné. J'ai accompagné à la Javanaise pour Jane Birkin et lui. Mais c'était un spectacle collectif, caritatif, où il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Et à la fin, j'étais hyper fier. Je me suis dit, il va venir me féliciter et tout. Et en fait, il a cru que j'étais le mec qui faisait les retours. Non. Et il m'a engueulé. Il m'a dit, je n'entendais pas. Le retour était passé.
C'est pas vrai.
Un grand professionnel, manifestement.
Donc, c'est une anecdote, voilà. En creux.
Voilà. Le bémol de la soirée.
Signé Vincent Delerme. On vous écoute. C'est à vous, Vincent Delerme.
Si on peut oublier tout ça, le stadium, défense, arena, les charrues, le concours sous la douche. Si on peut ce soir effacer le carton, 3 millions d'entrées, simplement dire ce qui nous touche. Si on peut vivre comme Agnès, se parler à deux dans la pièce, et ressentir une émotion. Si on peut vivre une vie Varda, marcher sur le sable comme ça, faire une vie hors compétition. Si on peut regarder ailleurs, pas le clash, pas les chroniqueurs, quelquefois chercher l'élégance. Si on peut trouver la beauté, un visage par le temps froissé, dans la nuit, un danseur qui danse. Si on peut vivre comme Agnès, se parler à deux dans la pièce et ressentir une émotion.
Si on peut vivre une vie varda, marcher sur le sable comme ça, faire une vie hors compétition. Photographier à Lisbonne un matin d'été, si je peux encore un instant, si je peux vivre comme Agnès, parler avec toi dans la pièce et ressentir une émotion, si je peux vivre une vie varda, marcher sur le sable comme ça, faire une vie hors compétition. Si je peux vivre comme Agnès. Si je peux vivre une vie varda.
C'était une vie varda après ça.
Super, merci.
Vincent Delerme, c'était en piano-voix, c'est un extrait de Panorama, c'est son nouvel album. Ça sort le 18 octobre, on est un petit peu en avance, c'est un disque France Inter. Son film, je ne sais pas si c'est tout le monde, sortira le 16 octobre sur les écrans.
Marc Di Domenico l'a déjà vu.
Ah, justement, oui, moi aussi j'ai déjà vu.
Angoulême, ouais. c'était
très beau.
Beaucoup d'émotions.
Et Michel Aznavour aussi l'a vu. Ouais.
Alors il n'y a que des spectateurs.
Oui, on se tient au courant, le suit.
Il n'y a que moi, Benoît Lagan et les auditeurs qui ne l'avaient pas vu.
Non mais c'est un très beau film. C'est en pointillisme comme ça, plein d'émotions véhiculées très douces,
très
douces et qui nous font du bien.
Et l'album est sublime.
Et Vincent Delerme va attaquer un marathon de concerts. Ça va se passer à la Cigale à Paris du 22 au 26 octobre, du 5 au 9 novembre et du 3 au 7 décembre. Et à partir du 11 février 2020, il y aura Toulouse, Bordeaux, Biarritz, Nantes, Deauville, Poitiers, Lille, Bruxelles. À la prise de son ce soir, il y a Julien Dumont et Fabrice Desmaz. Merci beaucoup à vous messieurs et merci beaucoup Vincent Delerme.
On le reverra bientôt.
La semaine prochaine.
Très bien, merci à nos invités. Merci Michel Aznavour, merci Marc Di Domenico. Le Regard de Charles, je le rappelle, est en salle depuis aujourd'hui. Véronique Mortaigne, allez, on rappelle vos livres. Double jeu sur Gainsbourg et Birkin, aux éditions des Équateurs. Et Fred Nefché, je signale un nouvel EP, des Strikes et Remix, sous le label.
C'est interne-externe, c'est le label Inex qu'on a créé à Marseille avec la coopérative Grand Bonheur. Voilà.
Eh bien c'est parfait, c'était le NRV, première partie, on se retrouve dans 15 minutes pour le NRV La Suite, pour plus de France Inter. Demain, au programme du NRV, les changements de registre.
Débattre de la laïcité, ça n'est pas être à contre-courant de l'histoire, mais c'est au contraire apporter des réponses à la quête d'identité et de liberté des peuples.
Il vous a fait peur, hein. C'était François Fillon. La laïcité, un gros mot, FCPE, piscine, voile, planning familial, UNEF, laïque, est-ce que c'est fini? On vous attend sur le sujet, on attend vos messages, des questions, vos analyses au répondeur 01 56 40 37 37. En live demain, Marion, ce sera?
Elle a quitté le groupe La Femme pour pratiquer une pop rêveuse, elle s'appelle Aja.
Le NRV, c'est Marion Lelay à la réalisation. Programmation, préparation, Virginie Rosy, Clémence Diligent. On se retrouve dans 15 minutes après le journal sur les traces de Robert Johnson, un bluesman de légende. C'est au programme du NRV La Suite France Inter plus de Give Me Jazz ce soir. Alors à tout de suite.
Rendez-vous.